Je reviens au hockey avec toi, Alexis, parce que depuis quelques jours, vous le savez, on fait le survol des équipes de la Ligue nationale et de ce qu'elles ont fait durant l'entre-saison depuis le début de l'été, autant au niveau des acquisitions, des départs. À partir d'aujourd'hui, on va y aller avec 3 équipes par jour. Alexis, on va en faire une première, on va faire une petite pause ensuite et on va poursuivre avec les autres. Mais commençons avec le Wild du Minnesota qui n'a pas énormément bougé cet été, en tout cas pas au niveau des acquisitions, là.
Ouais, ça a été un petit peu plus tranquille là, cet été du côté du Wild. Et on sait que le dossier le plus important n'est toujours pas réglé.
En fait, il y en a deux.
Ouais, ben il y en a un. En tout cas, c'est Marco Rossi. Celui-là, on y reviendra dans quelques instants. Mais du côté du Wild, là, ça a été, comme tu dis, assez tranquille. Le plus gros nom en fait qu'on a été chercher, c'est un Vladimir Tarasenko, lui qui est vraiment plus en fin de carrière. Là. On a été le chercher contre des considérations futures. Donc en fait, on l'a pratiquement eu pour gratuit. On va se le dire. Là. Fait que ça résume pas mal déjà ce qu'on a acquis en termes de nom chez le Wild. Donc, on va chercher un joueur qui on pense, peut peut-être nous apporter encore une certaine production offensive. Sûrement qu'on va vouloir l'utiliser sur un top 6. Et sinon, ben on a mis sous contrat l'attaquant Danila Yurov à son contrat d'entrée, donc 3 ans, 950 000 $. Et j'ai hésité à le mettre, honnêtement, dans mes deux joueurs à surveiller, puisque c'est un espoir qui m'intrigue beaucoup, Danila Yurov, là, lui qui jouait dans la KHL depuis quelques années.
Ce sera sa première année en Amérique pour lui. Là.
Exact, fera le saut chez les professionnels. Donc, est-ce qu'il réussira à se tailler un poste avec le grand club au camp d'entraînement? On le saura dans quelques semaines, mais du moins, c'est un espoir que je vais aimer suivre là, du côté du Wild. Et lui qui pourrait bénéficier de peut-être certains temps de jeu lorsqu'il fera sa place avec le grand club. Donc, ce sera intéressant à voir. Sinon, bien, Nico Sturm, qui revient dans l'entourage du Wild, lui qui avait été là de 2018 à 2022, il s'est entendu avec l'équipe pour 2 ans à 2 millions par année.
Plusieurs départs chez le Wild du Minnesota, bon, notamment les Québécois Marc-André Fleury et Frédéric Gaudreau en particulier, qui retiennent un peu l'attention. Mais je pense que si on parle du Wild du Minnesota, t'en as parlé, il faut parler de Marco Rossi et de Kirill Kaprizov, deux joueurs dans des situations un peu différente mais similaire à la fois, c'est-à-dire qu'on recherche des nouveaux contrats. C'est juste que Rossi, lui, n'en a pas pour le début de la saison. Au moins Kaprizov en a encore un pour cette année.
Ben c'est ça. Donc et du côté de Marco Rossi, ben on le sait, c'est un des morceaux très importants pour le Wild du Minnesota. Ça a été l'une des pièces clés à cette équipe-là la saison dernière. C'est lui qui occupe le poste de deuxième centre. Alors si tu perds les services de Marco Rossi, parce que là, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Est-ce qu'il va signer avec l'équipe? Est-ce qu'il sera transigé? On sait, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup d'équipes intéressées à faire l'acquisition de ses services. Donc là, si on perd Marco Rossi, qui se retrouve au poste de deuxième centre, ça devient très faible à ce niveau-là. Donc ça va être un dossier très important à régler dans les prochaines semaines. Et puis pour ce qui est de Kirill Kaprizov, ben lui, comme tu le mentionnes, il est encore sous contrat, mais pour la dernière année. Donc c'est 9 millions de $ cette saison. Et puis par la suite, deviendra agent libre sans compensation à partir de l'été prochain. Donc lui, s'il ne s'entend pas avec le Wild, pourrait devenir joueur autonome et profiter de son autonomie complète. Donc, est-ce qu'on verra ça arriver? Écoute, j'ai pas l'impression, parce que je pense qu'on va vraiment vouloir régler ce dossier-là le plus rapidement possible chez le Wild. C'est le meilleur joueur que l'équipe a eu probablement dans l'histoire de sa franchise. Et c'est un attaquant totalement électrisant, l'un des meilleurs du circuit, et seulement âgé de 28 ans. Donc, c'est certainement un joueur qu'on va vouloir garder dans le giron de l'équipe et continuer de bâtir autour de lui. Mais ça, c'est un dossier qu'on pourra regarder le plus plus au fil de la saison, je dirais.
C'est une équipe qui a terminé au 4e rang de la section centrale l'an dernier, qui a accédé aux éliminatoires, mais qui a été à nouveau éliminée au premier tour contre les Golden Knights. Je dis à nouveau parce que on a rarement vu le Wild dans les dernières années franchir ce premier tour, même si de temps en temps, on va en série.
Ben, ça date de 2015, la dernière fois qu'on a vu l'équipe franchir le premier tour. Donc, je dirais qu'on est on stagne un peu peut-être à ce niveau-là. Là, c'est une des équipes justement qui a de la difficulté lorsqu'on rentre en série. On se qualifie assez fréquemment, mais on a de la difficulté à avoir des succès une fois les séries commencées. Puis encore une fois, cette année, ça a été un peu similaire. Honnêtement, ça a été Matt Boldy et Kirill Kaprizov qui ont mené l'attaque pour le Wild, et ça a été presque les deux seuls joueurs à produire des points pour cette équipe-là. Le reste de l'équipe a été assez invisible, donc ça explique l'élimination hâtive en 6 matchs contre les Golden Knights. Et pour ce qui est de la prochaine saison, ben Écoute, on continue de bâtir avec le même noyau de jeunes depuis quelques années, là, des joueurs qui gagnent en expérience maintenant. Donc, on parle ici évidemment de Joel Eriksson-Ek, Matt Boldy, Marco Rossi et Brock Faber. Donc,
et Zeev Bolyum aussi.
Ben, Zeev Bolyum, lui, c'est ça. Lui, il arrive cette saison. Là. Ça sera sa première saison complète. En fait, il a fait ses débuts en série l'année passée. Et tant qu'en parler de lui, ben, je vais tout de suite y aller. C'est mon premier joueur à surveiller pour cette prochaine saison, évidemment. Donc, le 12e choix.
Quel défenseur.
Quel défenseur, Zeev Bolyum. Tu fais bien de le dire. C'est le 12e choix au total en 2024. Ça, c'est un choix qui a glissé, honnêtement. Le Wild avait, n'avait aucune attente, en fait, de retrouver ce joueur-là encore disponible à ce rang-là, et c'est pourquoi on a sauté sur l'occasion de le repêcher. Il est âgé de 19 ans seulement, un défenseur de 6 pieds, 183 livres. Pour lui, ça a été deux saisons complètes là, à l'université à Denver avant de s'amener chez les pros.
Et, tu dis 6 pieds, 183 livres. Quand on le voit jouer, il joue plus gros que ça. Ah, il prend de la place sur la patinoire. Ouais. Tu me dirais qu'il fait 6 pieds 3 ou 6 pieds 4, je t'aurais cru. C'est le genre de gars que, peu importe sa stature, il est imposant sur la glace. Là.
Même moi, quand j'ai vu ses mensurations, honnêtement, j'ai presque fait le saut parce que je croyais qu'il était peut-être un petit peu plus grand que ça, comme peut-être un 6 pieds 2, tu sais. Mais non, honnêtement, c'est un joueur qui prend de la place, comme tu dis, qui est imposant, qui mène le jeu aussi lorsqu'il est sur la glace, et c'est pas pour rien que le Wild a décidé même de lui confier la première vague d'avantages numériques, d'être le corps arrière de ce jeu de puissance-là dès son arrivée, et lui qui a fait ses débuts en série justement avec l'équipe, a disputé 4 matchs, a amassé une passe. C'est certain que là, il fallait pas avoir des trop grandes attentes non plus. Là, on sait, le hockey des séries, c'est un hockey totalement différent qu'en saison. Donc, de faire tes débuts dans le hockey professionnel quand tu arrives de l'université en série, c'était certain que ça allait prendre un certain temps pour s'adapter, que ça allait être un petit peu plus difficile. Mais tout de même, ça démontre à quel point on a des attentes envers ce défenseur-là si on lui a confié des responsabilités autant grandes devant, par exemple, un Brock Faber qui est établi déjà depuis 2 ans, là.
Ben, tout à fait. Marco Rossi, ben, on en a parlé également. Il sera à surveiller de par sa situation contractuelle. Souhaitons qu'il commence la saison en début d'année et non pas qu'il se retrouve dans une situation un peu comme William Nylander, notamment il y a quelques années, là, qui avait amorcé seulement au mois de décembre la saison en raison de mésententes contractuelles. On va donc surveiller le Wild assurément dans cette section centrale. Je te propose, Alexis, qu'on fasse une petite pause et au retour, on va parler des deux autres équipes dont tu voulais nous parler aujourd'hui, l'Avalanche du Colorado et les Stars de Dallas, deux excellentes formations qu'on pourra décortiquer au retour dans quelques instants dans le Club du matin.
Jusqu'à 10h, fais partie du Club de Montréal. 514-790-0919. Partout ailleurs, 1-888-790-0919. Le Club du matin sur BPM Sport.
8h45 minutes, presque exactement 8h45 et 8 secondes pour être exact en ce 31 juillet. On est avec vous encore pour un peu plus d'une heure jusqu'à 9h54 lorsque Jean-Philippe Bertrand va s'amener. Je continue de vous lire sur la messagerie texte et sur YouTube également. Et vous êtes plusieurs à vous amuser, et tant mieux, amusez-vous. Je garde un œil toujours sur ce qui se passe sur les différentes messageries texte qu'on a à vous offrir. Alexis, on va poursuivre ce dont on parlait avant la pause sur ta chronique sur les équipes et les changements qu'elles ont fait au cours de l'entre-saison. L'Avalanche du Colorado, dans son cas, beaucoup de pression à chaque année sur l'Avalanche du Colorado de par le talent que cette équipe a. Elle n'a pas bougé énormément au cours de l'entre-saison au niveau des arrivées.
Ben, c'est sûr que quand on arrive dans les équipes justement qui sont plus hautes dans le classement, plus à maturité, c'est plus normal de voir ces équipes-là rester un petit peu plus tranquilles alors qu'on a déjà un noyau bien établi en place. Donc, la transaction, je te dirais, la plus notable là, qu'on a fait cet été, ça a été de se libérer en fait un peu d'argent sur la masse salariale en envoyant notamment Charlie Coyle et Miles Wood du côté des Blue Jackets de Columbus. En retour, on a fait l'acquisition d'un jeune joueur, Gavin Brindley, avec également des choix de 3e et de 2e ronde. Donc, ça a été le mouvement le plus notable là, qu'on a fait cet été. Et juste pour mettre les gens en contexte, Gavin Brindley, lui qui est un jeune joueur de 20 ans, joueur de centre, petit gabarit, toutefois 5 et 8. C'est un ancien choix de 2e ronde avec les Jackets en 2023, lui qui a joué sa première saison là, de chez les pros avec le club école des Jackets cette année. En 52 matchs, il a amassé 17 points. Donc, c'est quand même un bel espoir. Toutefois, Gavin Brindley, là, je pense que j'avais vu des réactions à chaud des partisans des Jackets lorsque la transaction est arrivée. Sentait un petit peu de déception d'avoir laissé cet espoir-là partir. Mais donc, c'est ça. C'est une transaction dans le but de libérer un peu d'argent sur la masse salariale pour l'Avalanche du Colorado. Mais toutefois, honnêtement, avec cette transaction-là, j'ai l'impression que la profondeur de l'équipe en a pris un coup quand même. Là. On regarde, c'est encore un top 6 qui est incroyable. Tu sais, ça, c'est je veux dire, c'est d'une évidence. On regarde, tu sais, c'est des gars comme Arturi Lehkonen, Nathan MacKinnon, Martin Nechas, Gabriel Landeskog, Brock Nelson et Valérie Nichushkin. On parle ici d'un des top 6 probablement les plus dominants du circuit. Mais toutefois, en profondeur, comme je te dis, avec cette transaction-là, on en a pris un certain coup. Là. Il nous reste Jack Drury qu'on a acquis l'an passé et des Ross Colton. Mais à part ça, c'est des jeunes joueurs avec presque pas d'expérience ou même aucune. Ou des joueurs un petit peu plus de style Ligue américaine, si on veut dire.
Ouais, l'Avalanche a perdu au premier tour contre les Stars de Dallas. Alors, oui, quand tu regardes le bilan, tu dis l'équipe a perdu au premier tour, c'est décevant, mais ça a été une série incroyable contre Dallas terminée en 7 matchs. On était tous déçus un peu de voir cette série-là se produire dès le premier tour. Là.
C'est ça, des fois, la petite. Le petit côté négatif, en fait, de ce format de série, c'est qu'on voit des équipes dominantes devoir. Se faire éliminer au premier tour parce que justement, bien, on a la deuxième position et la troisième position qui s'affrontent dès la première ronde. Donc, ça a donné le cas justement cette année là, avec l'Avalanche et les Stars. On allait voir une de ces deux équipes se faire éliminer rapidement et pourtant, c'était deux équipes favorites pour la Coupe Stanley. Donc, ça a été toute une série, mais l'Avalanche qui s'est fait sortir en 7 matchs par les Stars, ça a été crève-cœur honnêtement. Mais si on revient un petit peu à ce qu'on a perdu par la suite, sur le marché des joueurs autonomes, on a laissé aller Jonathan Drouin, notamment lui qui est rendu du côté des Islanders, Ryan Lindgren en défensive qui s'en va rejoindre le Kraken et certains joueurs là, comme Joel Kiviranta, Jimmy Vesey et Rick Johnson qui eux sont encore sans contrat à l'heure où on se parle. On a également aussi prolongé le contrat du défenseur Josh Manson pour 2 ans à un petit peu moins de 4 millions de dollars par année. Et une signature aussi qui a retenu mon attention, c'est celle du gardien de but Ilya Nabokov, lui qui est un choix de 6e ronde de l'organisation au dernier repêchage en 2024, a déjà signé un contrat d'entrée avec l'équipe pour 2 ans. Et lui, il a passé les 2 dernières saisons dans la KHL avec des chiffres honnêtement tout simplement impressionnants. Là. À peu près 925 de moyenne d'efficacité, puis une moyenne de but accordé un petit peu plus haute que 2. Donc honnêtement, ça c'est un espoir que je surveille, surtout pour un choix tardif comme ça. Là.
De plus en plus, quand je vois un espoir russe devant le filet, là tout d'un coup, on a beaucoup d'attention parce que dans les dernières années, la Russie a produit des gardiens d'exception. Alors, quand il y en a un qui arrive de la KHL, on a toujours un œil à viser là, à voir ce qu'il va pouvoir donner. Pour être honnête, Ilya Nabokov, je ne le connais pas et il y a très peu de gens qui ont eu la chance de le voir jouer. On ne voit plus les Russes au niveau international, bien sûr, de par le contexte politique que vous connaissez. Donc, on va le découvrir cette année, Ilya Nabokov.
Ouais, écoute, ça risque d'être dans le club école pour faire ses débuts. Et puis, on le sait, on n'a pas nécessairement des jeunes gardiens élites avec la formation. Donc, lui qui aura toutes les chances là, de peut-être s'établir comme gardien de l'organisation si jamais il performe bien. Si on y va rapidement avec les joueurs à surveiller, eh bien, on n'a pas nécessairement de jeunes joueurs dans cette formation-là, justement, qui font leur début ou qui sont à mettons, leur deuxième, troisième saison comme les autres équipes. Donc, c'est plus des vétérans
dont un revenant.
Commençons avec Valérie Nichushkin, lui qui est âgé de 30 ans maintenant. Et lui, la raison pour laquelle je vais le surveiller cette saison, c'est qu'il n'a pas disputé une saison complète dans la LNH depuis 2015-2016, alors qu'il était avec les Stars. Donc, ça fait près de 10 ans qu'il n'a pas été en mesure de disputer une saison complète. Et pour plusieurs raisons, là, on le sait, il y a eu des blessures dans son cas. Il a même fait un retour en KHL aussi, un bref passage avant de revenir dans la LNH. Il y a eu les suspensions là-dedans aussi. Donc, bref, plusieurs raisons qui ont mené à ce résultat. Mais là, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il va être en mesure finalement de disputer une saison complète? Parce qu'on le sait, lorsqu'il est en santé, Valérie Nichushkin est un morceau très important à l'Avalanche du Colorado. Il avait été un des joueurs les plus dominants là, vers la Coupe Stanley en 2022. Donc, clairement qu'aussi avec la perte de Rantanen et de profondeur qu'on a eu cet été, eh bien, il aura encore beaucoup de temps de glace. Et puis, je termine avec Gabriel Landeskog. Lui, comme tu l'as mentionné, un revenant. Ça va être sa première saison complète en un peu plus de 4 ans, là, lui qui n'avait pas joué depuis justement cette conquête en 2022 de la Coupe Stanley. Lui qui a fait son retour en série l'an passé et qui, honnêtement, m'a surpris et je crois a surpris beaucoup de gens aussi, a eu un niveau de jeu assez intéressant pour un joueur qui avait justement manqué autant d'activité dans les dernières saisons. On a quand même amassé 4 points en 5 matchs et on lui a quand même permis de jouer en moyenne 17 minutes aussi par rencontre, ce qui est quand même assez bien pour un joueur comme Landeskog qui est âgé de 32 ans. Donc, comment est-ce qu'il va réagir à une saison complète de 82 matchs après avoir raté les 3 dernières saisons? C'est ce que je me demande et c'est la raison pour laquelle je vais le surveiller cette année.
Un mot sur les Stars de Dallas maintenant, l'équipe qui a éliminé l'Avalanche du Colorado lors des dernières séries éliminatoires. Une équipe qui n'a pas compté sur beaucoup d'arrivées. Vladislav Koliochnok et Radek Faksa, ouais, c'est pas nécessairement la mer à boire là, au niveau des arrivées, mais il y a eu quand même quelques départs par contre, donc on va devoir puiser dans la profondeur et dans la relève pour pallier à ces départs-là.
Ben, évidemment que l'acquisition de Mikko Rantanen a un petit peu lié les mains à l'organisation en termes de masse salariale, là, lui qui a signé un gros contrat.
Mais c'est bien quand même de se lier les mains avec Mikko Rantanen. Là,
c'est ben, en fait, surtout de la façon dont ça s'est passé pour lui. Il a été dominant en série, mais littéralement dominant. Et on espérait simplement que ça ne soit pas la même chose que lors de son bref passage avec les Hurricanes où il était presque invisible. Donc maintenant, son contrat paraît un petit peu mieux justement avec ce parcours en série. Et pour ce qui est des départs, eh bien justement, on a dû laisser aller des joueurs qui commandaient un plus gros salaire ou qui allaient demander un montant un petit peu trop important. Donc des gars comme Mason Marchman qui ont été échangés du côté de Seattle, Matt Dumba du côté de Pittsburgh et par la suite, eh bien Mikael Granlund, lui qui, on le sait, a signé avec les Ducks d'Anaheim. Cody Ceci qui est rendu du côté des Kings et Brendan Smith qui est toujours sans contrat. Et il faut également mentionner aussi des joueurs, des vétérans qui sont avec l'organisation qui ont accepté des baisses de salaire, des contrats un petit peu plus raisonnables justement pour accommoder l'équipe. Je pense à un Jamie Benn, ben lui, oui, qui a accepté un an, $1 million.
Qu'il aurait eu plus un peu ailleurs. Là.
Ben, facilement. Là, je veux dire, je le sais que c'est plus le joueur que c'était, Jamie Benn, mais encore un joueur qui est capable d'apporter une production offensive intéressante pour une équipe. Et clairement, là, que ça paraît que son cœur est à Dallas, lui qui a été là depuis le début de sa carrière, en fait, si je ne me trompe pas. Là. Mais donc, Jamie Benn, un
ouais,
morceau...
il a été là toute sa carrière.
Ben, c'est ça. J'avais juste un blanc, là. Mais donc, pour lui, je pense que c'est important de rester là et de vouloir accommoder cette équipe-là. Donc, contrat raisonnable. Matt Duchesne, même chose ici, là, 4 ans, 4,5 millions pour un joueur qui... Lui, Matt Duchesne, c'est tellement intéressant parce que c'est une production en dents de scie depuis quelques années. Il va connaître une bonne saison, puis par la suite, il va avoir plus de difficultés. Par la suite, il va revenir avec une autre bonne saison.
Ouais.
82 points l'an passé pour Matt Duchesne, ça a été très impressionnant. Personne n'avait vu venir nécessairement. Donc, lui qui est encore à ce niveau-là, a accepté sûrement un salaire un peu moindre que ce à quoi il aurait pu avoir là, s'il avait été sur le marché des joueurs autonomes.
Deux joueurs que tu veux surveiller chez les Stars, Thomas Harley et Wyatt Johnston.
Ouais, Thomas Harley, c'est un très beau défenseur, honnêtement. Lui qui est une belle surprise depuis son arrivée à Dallas. Ça a été le 18e choix, oui, de l'encan 2019 par les Stars. Lui qui est rendu âgé de 23 ans. On a pu le voir ici un petit peu plus au Québec là, lors du tournoi des Quatre Nations. On a eu l'occasion de jouer deux matchs.
Et je pense que c'est un défenseur qui est appelé à prendre sa place avec la formation canadienne dans les prochaines années.
Absolument. Là. On a appris à le découvrir et c'est pas pour rien qu'on lui a justement lancé cet appel-là à un aussi jeune âge alors qu'il y avait tellement de bons défenseurs de disponibles. C'est un joueur avec un très beau potentiel, un très beau futur devant lui. Et dans l'organisation des Stars, eh bien, il va encore avoir un bon rôle à occuper. Et puis, ce qui est intéressant dans son cas, c'est que c'est vraiment un défenseur complet. À ses deux premières saisons, ça a été 47 et 50 points l'an passé. Mais c'est, si on regarde aussi du côté du différentiel, plus 28 et plus 32. C'est énorme quand même. Ouais. Là, il a terminé au cinquième rang des défenseurs à ce chapitre. Si on compile les deux dernières saisons ensemble, là, il est au cinquième rang chez les défenseurs avec un total de plus 60, en fait. Donc, c'est assez intéressant pour Thomas Harley. Donc, j'ai bien hâte de voir, honnêtement, lui, qu'est-ce qu'il va faire cette saison. S'il peut encore maintenir cette production autant défensive qu'offensive, pourrait certainement s'établir comme l'un des meilleurs défenseurs du circuit.
Et Wyatt Johnston, c'est un coup de circuit que les Stars ont frappé au repêchage et qui est en train de rapporter très gros, là.
Ouais, ben lui, c'est une évolution constante, hein, depuis son arrivée dans la LNH, là, en termes de points. Ça grimpe d'année en année. Donc, on a passé de 41 à 65 à 71 l'an dernier. C'est deux saisons consécutives de plus de 30 buts dans le cas de Wyatt Johnston. Toutefois, ça a été un petit peu plus difficile en série, hein, pour Wyatt Johnston. Là, ça n'a pas nécessairement été facile. Il a terminé avec moins 16, ce qui est le pire différentiel, en fait, parmi les joueurs qui ont participé aux dernières séries à égalité avec Matt Duchene, son coéquipier. Et lui, il débute la nouvelle entente de 5 ans qu'il avait signé avec les Stars pour un petit peu plus de 8 millions de dollars par année. Donc, pour Wyatt Johnston, eh bien, ça va être une autre saison importante, si on peut dire ça pour lui, là, qui pourrait devenir peut-être un joueur de 80 points. C'est ce que j'ai hâte de voir. Mais ce qui est encore plus impressionnant dans son cas, c'est que justement, il amasse cette production et il ne joue pratiquement jamais avec les gars comme Rantanen, Robertson et Hintz, puisque ces gars-là forment un trio qui a presque pas été séparé, en fait, là, depuis que Rantanen est arrivé avec les Stars. Donc, il joue avec eux sur l'avantage numérique, mais sinon, doit jouer sur un deuxième trio, alors que c'est des bons joueurs, mais je veux dire, pas du calibre de Jason Robertson et Rantanen sur les ailes. Donc, impressionnant ce Wyatt Johnston depuis son arrivée dans la LNH, et j'ai hâte de voir ce qu'il pourra encore offrir cette saison.
Deuxième l'an dernier, les Stars de Dallas, 106 points, éliminés en demi-finale contre les Oilers d'Edmonton. On s'en rappelle, on pensait que ça allait être une série plus longue qui s'était finalement terminée en 5 matchs pour les Stars.
Écoute,
de Dallas.
C'est 3 ans de suite quand même pour les Stars, là, en haut de la barre des 100 points, et qu'on termine aussi dans le top 2 de la division, mais c'est aussi 3 ans de suite à perdre en demi-finale. Et à chaque année, on se demande, est-ce que c'est l'année des Stars enfin? Et là, on va se reposer la même question cette année. Est-ce que ce sera l'année des Stars? Eh bien, l'avenir nous le dira.